Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous et bienvenue dans une semaine formidable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, Nicolas Brignone, Pierre Forest et Eric Figuère. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, du rugby avec la reprise du top 14, du tennis avec les victoires d'Arina Sabalenka et de Jannik Sinner à l'US Open et un premier bilan des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Faut-il laisser les anneaux olympiques sur la tour Eiffel ? Ce sera le débat entre nos invités après une page de pub et nous terminerons comme d'habitude par les coups de cœur de nos invités. Pierre Forest, on va commencer par vous et la reprise du top 14 avec une période qui a laissé place au mercato avec finalement beaucoup de changements quand même dans les équipes. Et puis une première journée assez logique, on va dire, dans ces résultats avec Toulouse qui a largement dominé Vannes, le promu, et qui semble sur sa lancée de la saison dernière.
Effectivement, c'est parti pour 26 week-ends, hein, 13 matchs aller, 13 matchs retour, donc il en reste encore 25. Qui va se dérouler et s'étaler sur 10 mois, puisqu'on commence en septembre pour finir à la finale au mois de juin 2025. Une saison qui sera, le top 14, qui sera entrecoupé des matchs de l'équipe de France, que ce soit le tournoi destination, les tournées des équipes de l'hémisphère sud en fin d'année 2024, et également la Coupe d'Europe. Donc, évidemment, Toulouse a étreiné son double titre de champion d'Europe et champion de France de l'année dernière en se déplaçant à Vannes. Donc une victoire somme toute logique, on va dire ça comme ça, malgré une belle résistance des Vannetais, des Bretons, chez eux, au stade de la Rabine, qui ont quand même eu la primeur de marquer deux essais. C'est vrai que c'était un... Commencer le top 14 en recevant le champion en titre, il tenait à être présent, donc ils l'ont été. Et je suis tenté de dire, gare à ceux qui vont vouloir venir à Vannes, un peu la fleur au fusil, pour dire on va faire tous les effectifs, parce que les Bretons, ils sont coriaces, et à mon avis, ils ne laisseront pas passer beaucoup d'occasions de pouvoir scorer, surtout de gagner.
Vannes serait-il La Rochelle d'il y a quelques années ?
Peut-être pas tout de suite, hein.
je ne pense pas tout de suite.
Mais ils vont s'aguerrir, hein. ils ont fait des recrutements, certes. Bonipola, qui est le pilier droit de l'équipe d'Angleterre. Donc, il y a quand même eu des recrues, le temps que la mayonnaise se fasse. Mais c'est vrai que, quant au Toulouse, qui a eu beaucoup de récupérations, sachant que les vainqueurs du top 14 de l'an dernier n'ont pas fait la tournée en Argentine. Donc, ils ont eu beaucoup, beaucoup de semaines de repos. Et là, on avait pratiquement une équipe digne des phases finales. Donc, évidemment, il n'y a rien de plus logique. La surprise vient certainement de la défaite, encore une fois, de Montpellier dès la première journée. Montpellier qui avait à domicile, qui l'an dernier, souvenez-vous, avait joué un match de barrage contre Brive, hein, puisqu'ils étaient pratiquement condamnés. Ils ont eu la vie sauve sur le match contre Brive. Et là, ils commencent très mal la saison, donc avec une victoire du Loup à Montpellier, il va falloir cravacher. Sachant que le prochain match de Montpellier, je regardais, c'est déjà pour la deuxième journée, c'est d'aller à Perpignan. Où c'est jamais facile de s'imposer. Donc ces deux victoires à l'extérieur du Loup et de Toulouse, on a eu des victoires étriquées à domicile, hein, quand même, La Rochelle contre Toulon de 4 points, victoire
19-15, ouais, c'est ça.
Voilà, 19-15. Bayonne contre Perpignan aussi, c'était un beau match, 2 points d'écart. Et le troisième match,
c'est Castres contre le Racing,
voilà, 31-28. Et donc, et par contre, deux matchs avec victoire de Clermont qui ont foutu une tannée à Pau chez eux.
39-7. Donc,
39-16. Et aussi le remake de la demi-finale de l'an dernier, Bordeaux-Bègles contre le Stade français. Et la victoire facile des Béglés, des Bordelais-Béglés. Donc voilà. Donc ça nous promet encore une fois une saison de top 14 riche. Sachant que, par exemple, on parlait de Montpellier tout à l'heure, ils ont l'arrière de l'équipe d'Écosse qui a signé. Donc, malgré ça, malgré cet apport de joueurs étrangers de plus en plus, je crois que la mayonnaise ne s'est pas encore faite. Ils ont changé d'entraîneur, mais Montpellier restera un fief du rugby hexagonal où il sera difficile de s'y imposer.
Après une saison, on le sait, c'est très long, donc on peut mal démarrer et se reprendre. C'est tout le mal qu'on leur souhaite, en tous les cas.
C'est exactement ça. On risque d'avoir... Alors, l'objectif pour les 14 équipes, l'objectif, c'est de finir dans les 6. au classement final.
Pour accéder aux play-offs.
Donc voilà, il y a deux play-offs. Donc la route est longue, il y aura les blessures, il y aura les méformes des uns et des autres.
Les trêves internationales.
Voilà, les trêves internationales. Donc ça va être encore palpitant cette année.
Messieurs, est-ce que vous avez suivi le rugby, Eric Figuère ?
Oui, moi je suis catalan, donc le rugby c'est dans le sang. Hein. Je suis né footballeur, mais j'ai tellement de rugby dans le sang que forcément je suis. Et avec beaucoup d'intérêt cette première journée. Malheureusement, les Catalans ont perdu, on vient de le dire, de 2 points à Bayonne. C'est sûr que tout le monde là aussi ne viendra pas gagner à Bayonne aussi facilement. J'espère que cette année, Perpignan démarrera sa saison bien mieux que les années précédentes, ce qui la mettra moins en difficulté, lui permettra peut-être, parce qu'elle pouvait l'entrevoir l'année dernière, une place en play-off. Donc ça va être intéressant à voir. J'ai suivi et vu les deux défaites des clubs parisiens. Un peu surprenant malgré tout. Voilà, puisque le Racing s'est quand même bien renforcé là aussi. Bon, avec des débuts timides de l'ouvreur anglais, mais c'est un petit peu normal aussi. Donc voilà, évidemment que tout est à faire, mais que les clubs comme Montpellier, comme Vannes, même si c'est une équipe qui a fait un bon match, mais qu'elles ne prennent pas trop de retard tout de suite, parce que les choses vont malgré la distance qui reste encore à faire, les choses peuvent se compliquer assez rapidement, et on sait très bien que lorsqu'on a la tête au fond du seau, c'est toujours difficile. Montpellier a vécu une saison très difficile, et si elle en revient une deuxième, elle fera comme Perpignan à une époque, comme d'autres avant elle.
L'ascenseur.
Malheureusement, elle fera l'ascenseur. Donc aujourd'hui, le club n'est pas aussi stable qu'il l'a été. On pourrait toujours en discuter et en parler plus longtemps, mais ça peut lui coûter cher. On va voir ce que ça va donner. On en saura un petit peu plus d'ici 3-4 journées.
Messieurs, on va clôturer cette page top 14 pour cette semaine. On va quand même dire un petit mot des deux matchs du rugby championship qui se sont déroulés ce week-end, la quatrième journée.
Et avec à dire.
Une victoire de l'Afrique du Sud, une nouvelle victoire de l'Afrique du Sud sur la Nouvelle-Zélande 18-12. Et puis les Argentins qui passent 67 points aux Australiens avec 9 essais. Donc il y a quand même un petit peu de quoi dire là, Pierre Forest.
Alors sur le match des Sud-Africains, c'est les champions du monde en titre. Hein.
Donc, les doubles champions du monde.
Ils maîtrisent le sujet. Les All Blacks, ils ont changé d'entraîneur. On peut mettre ça sur le crédit d'une nouvelle équipe dirigeante. Mais trop de passes mal assurées. Je crois qu'ils ont été un peu brouillants. Donc, quant à les Sud-Africains, ça ne pardonne pas. Puis j'ai trouvé qu'au niveau... Au niveau densité physique, que ce soit au niveau des avant ou des trois quarts, je crois que les Sud-Africains sont vraiment au-dessus de la norme. Donc forcément, sur des matchs où, quand on joue maintenant très 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 vite et sur des matchs comme ça, je crois que c'est le physique qui l'emporte sur la fin. Donc il y a qu'à voir sur le dernier essai des Sud-Africains, c'est une expulsion. Hein, je crois que c'est un non-avant d'un All Black, d'un avant en plus. Qui a pris 10 minutes dehors, et c'est à ce moment-là qu'ils ont joué la pénalité en touche, et évidemment une mêlée enfoncée qui a fait qu'ils ont fait de la différence.
Il y a quand même une stat étonnante dans ce match, c'est que les Néo-Zélandais n'ont pas marqué d'essai. C'est quand même assez rare pour être souligné.
C'est parce qu'il y a une défense également des Sud-Africains. Ils sont très bons en défense, et c'est à partir des fautes défensives des adversaires, plutôt des fautes offensives des adversaires, quand ils sont en défense, eux, qu'ils transforment le jeu en... très puissant.
On peut presque dire que les Sud-Africains ont fait ce que les Néo-Zélandais ont fait pendant des années.
Hein. Ils sont en train de mettre la main sur le rugby mondial. Ce sera difficile de les faire descendre. Il nous reste 4 ans, hein, maintenant 3 ans, pour la prochaine Coupe du Monde. On espère qu'ils vont se fatiguer d'ici là. C'est mal parti. Quant à l'autre match, évidemment, ça a été une surprise, puisque les Australiens ont mené durant une bonne partie de la première mi-temps. Ils ont même
sachant qu'ils l'avaient emporté la semaine dernière.
Sachant qu'ils l'avaient emporté, certes, au coup de sirène, comme on dit, mais bon, ils l'avaient emporté. Et puis là, pour une raison inexplicable, ils ont pris la 12 essais, je crois,
en total. 9 essais en tout.
Oui, ils ont pris 9 essais dans... Et puis, ça fait une différence de 40 points. Et là, j'ai regardé un petit peu la presse australienne qui va fort. Hein, c'est la catastrophe du rugby australien. Enfin, c'est dans la première page. C'est inexplicable, surtout avec un nouvel entraîneur qui est le Kiwi, Joe Smith.
Ça n'a pas dû leur arriver souvent de prendre 67 points.
Non.
Une fois, je crois, dans l'histoire. Mais okay. Ouais. Pas contre l'Argentine.
Il reste deux journées de rugby championship avec un match sur chacun des terrains, puisque là, on ne sera pas sur deux rencontres au même endroit. Donc, l'Afrique du Sud va affronter les Springboks, et puis la Bledisloe Cup se jouera entre...
L'Argentine,
pardon, et la Bledisloe Cup se jouera, comme d'habitude, entre les Australiens.
Pour les Sud-Africains, il suffit de gagner un match.
Oui, qui reste. On peut même déjà dire qu'ils
gagneront les deux.
Par contre, ça sera intéressant de voir le match Nouvelle-Zélande-Wallaby, qui est toujours un derby dans la région.
C'est ça, avec en jeu la fameuse Bledisloe Cup. Donc voilà, un enjeu supplémentaire au sein de ce rugby championship. On suivra ça dans les semaines à venir. Eric Figard, avec vous, on va passer à l'US Open avec les victoires de Jannik Sinner ce matin et d'Arina Sabalenka hier matin. C'était la dernière levée du Grand Chelem pour 2024. Et finalement, ces deux joueurs ont gagné les deux tournois qui se jouaient sur dur en Open d'Australie tous les deux. Et donc, en levée du Grand Chelem. Et puis... ce tournoi de New York, là, cet US Open, on prend les mêmes et on recommence. Donc, ils sont vraiment intraitables sur dur.
Alors, ça, les résultats le prouvent. Hein. Ils ont gagné tous les deux, effectivement, comme tu dis, les tournois sur dur. Indiscutable. Après, Jannik Sinner est numéro un mondial. Donc, c'est à la fois tout sauf une surprise. Et à la fois, il fallait qu'il gagne son premier US Open, alors qu'Alcaraz et Djokovic, évidemment, étaient les principaux prétendants. Ben, ils sont tous les deux passés à la trappe
assez vite,
très tôt.
Ouais.
Évidemment qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que Djoko va peut-être avoir lui aussi des difficultés dans l'année prochaine, comme Rafa en a eu, avec des problèmes physiques, lui aussi, qui commence à pointer le bout de leur nez. Bon, Alcaraz, bien évidemment, on sait qu'il est encore très jeune et qu'il lui arrive de passer encore au travers de temps en temps. On sait que... Alors, c'est bien parce que on avait envie et on aimait ces matchs à 3, à 4, avec les géants qui étaient Nadal, Federer, Djokovic et puis Andy Murray à l'époque. Bon, maintenant, on en a deux, effectivement. Djoko qui est encore là. Il en faudrait encore un petit quatrième pour venir se mêler un petit peu à la lutte pour que ça nous fasse encore de très beaux tournois. Mais là, bon voilà, Jannik Sinner, très belle victoire chez les garçons. Et on en parlait tout à l'heure avec Pierre. Non, pas avec Pierre, mais on en parlait tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup Sabalenka, donc je suis très content qu'elle ait gagné. C'est une superbe joueuse dans tous les sens du terme. C'est pas là non plus une surprise, même si la numéro 1 mondiale... mais la numéro 1 mondiale, c'est Swiatek, effectivement. On aurait pu imaginer qu'elle irait conquérir ce titre. Bon, Sabalenka l'a gagné, ce titre, haut la main. Je crois qu'il n'y a absolument rien à dire. Ça nous fait deux beaux vainqueurs. C'est très souvent le cas en tennis. Hein. Il y a toujours quasiment les meilleurs qui sont à l'arrivée. Donc voilà, ça va continuer comme ça, c'est bien. Mais ça nous a fait un très beau tournoi.
Alors vous l'avez évoqué, hein, on est un peu dans une phase de transition. C'est la première fois depuis 2003 qu'aucun des membres du Big Three, c'est-à-dire Federer, Nadal, Djoko, ne gagne un grand chelem sur une saison. Hein. Alcaraz en a gagné deux cette saison, Sinner a gagné les deux autres. Donc on est vraiment sur une nouvelle ère. C'est la question que je vous pose.
Moi je réponds oui, évidemment. Alors bien sûr qu'il ne faut jamais enterrer ces immenses champions. Alors Nadal, ça va être plus compliqué parce que physiquement, voilà, je pense que c'est la fin et ce n'est pas du tout lui faire injure que de dire ça. Djokovic a encore, il a gagné d'ailleurs les Jeux Olympiques, donc c'est bien la preuve qu'il est encore présent. Mais pour tout un tas de raisons, les choses vont se compliquer de plus en plus. Mais je suis, moi, convaincu qu'il en gagnera encore un l'année prochaine parce qu'il est tellement avide de victoire et d'inscrire son nom dans l'histoire, ce qu'il a évidemment déjà fait, mais il veut encore plus le faire. Ça me fait penser à Ronaldo, d'ailleurs, au football. Donc non, il gagnera encore l'année prochaine, je pense, au moins un grand chelem. Mais c'est bien, ça nous fait un beau renouveau. Ne l'oublions pas, parce qu'il sera encore là, au moins, je pense, encore deux saisons pour gagner au moins un titre majeur par saison. Mais c'est bien. Alcaraz et Sinner gagnent deux tournois dans la même année chacun, deux tournois majeurs. Donc ça, c'est vraiment intéressant, avec des particularités chacun, avec un style de tennis un peu différent aussi. Ils ont une image qui est différente, ils ont une image qui est plutôt attractive. Donc ça, c'est bien aussi. On veut des champions qui nous fassent rêver. On veut des champions qui aient quelque chose au-delà des victoires de différents. On ne veut pas du tennis aseptisé, comme dans d'autres sports d'ailleurs, hein, pas que le tennis. Et là, je pense que ça peut nous promettre quelques belles années.
Alors, vous parliez de tennis aseptisé, justement, on a eu un renouveau un peu du tennis américain sur cet US Open. Alors, chez les garçons aussi bien que chez les filles, hein, donc Taylor Fritz est quand même en finale. contre Sinner. Frances Tiafoe, qui l'a battu en demi-finale, est quand même quelqu'un de très charismatique et qui attire les foules, qui fait se lever les foules aussi et qui, justement, est loin de ce tennis aseptisé dont vous parliez. Et puis, chez les filles, bah, pour ne citer qu'elle, Jessica Pegula, qui est en finale. Donc on a,
elle a 30 ans.
Voilà, on a quand même, on a quand même des joueurs qui se sont affirmés, qui se sont révélés un petit peu, là, cette année.
Alors, c'est vrai, Olivier, puis tu connais le tennis bien mieux que moi, mais c'est vrai qu'ils se sont révélés. Alors, c'est des noms qu'on connaissait évidemment bien, mais je pense malgré tout qu'ils sont encore loin de pouvoir prétendre à une victoire finale sur un grand chelem. On sait, et là encore une fois, tu le sais mieux que moi, que pour gagner un grand chelem, il faut bien plus que ça. Et à moins que tous les principaux, ceux qu'on a cités juste avant, les trois joueurs, soient blessés, je ne vois pas comment il y a un petit peu plus de chances pour les filles, effectivement, de se mêler à la bagarre finale. Je pense que chez les garçons, il y aura toujours un des trois qui sera devant. Voilà, je le pense. Donc c'est bien, mais il y a encore un petit bout de chemin pour eux.
Mais ça donne quand même de l'espoir au tennis américain, et ça me permet de faire une transition avec, malheureusement, le tennis français, qui, pour le coup, est beaucoup moins en forme. C'est toujours cette déception, hein, dans le country color. Troisième tour, c'est ce qu'on a fait de mieux sur ce tournoi pour Jessica Ponchet. Et puis, pas de garçon au troisième tour. Hugo Humbert et Arthur Fils, qui étaient nos espoirs.
Évidemment, et on peut pas continuer. Alors, évidemment, c'est normal qu'on soit déçu, puisqu'on attend mieux de nos représentants français.
On a quand même deux joueurs avec Arthur Fils et Hugo Humbert qui sont dans les 32 premières têtes de série, donc ils sont censés arriver au moins en 8e.
Voilà, mais dans les tournois majeurs, de la même manière qu'il faut autre chose pour les gagner, ces tournois, il faut aussi autre chose pour aller en deuxième semaine. Et pas aller en deuxième semaine une fois par an ou une fois de temps en temps, c'est y aller effectivement deux ou trois fois dans l'année, c'est-à-dire régulièrement. Et moi j'en parle souvent chaque fois que je viens ici. Ce qui compte, c'est la régularité au plus haut niveau, c'est ce qui leur permet après de pouvoir envisager d'aller en finale et de gagner ces tournois. Et là, il y a évidemment trop peu de résultats. Alors on ne peut pas critiquer, c'est des joueurs et des joueuses qui travaillent dur, qui s'investissent, qui donnent le maximum. Mais voilà, c'est le haut niveau. Et le haut niveau, alors on pourrait développer avec des spécialistes plus longtemps le tennis français, comme le golf français, même si aujourd'hui il est en bien meilleure forme. Mais malgré tout, voilà, il manque encore trop de choses pour que... voilà, et chaque fois qu'il y a un exploit, c'est vraiment un exploit. Donc c'est pas des exploits comme ça dont il nous faut, c'est plus.
Eh bien, on va regarder ça d'ici la fin de la saison, en espérant que nos joueurs français, dès le week-end prochain, ont un tour de Coupe Davis, donc qui permettent à la France de briller. Et puis, puisqu'on parle de France qui brille, on va passer aux Jeux paralympiques. Nicolas Brignone, avec vous. Alors, on va d'abord revenir sur les performances de nos Calédoniens, avec Vitolio qui fait donc deux fois septième au javelot et au poids, avec Pierre Ferbank qui fait sixième sur le 400, cinquième sur le 100 et quatrième sur le 800, et Félicien Siapo qui fait quatrième sur le 100 mètres à 8 centièmes de la troisième place avec un record d'Europe. Donc même si on est déçu de ne pas les voir revenir avec une médaille, il faut quand même relativiser les choses. Ils sont finalistes dans chacune de leurs disciplines et ils sont quand même sur des très très hautes performances.
Ah oui, tout à fait. Par exemple, pour Félicien et Vitolio, c'était leur premier jeu. Nous, dans nos compétitions internationales, c'est très rare qu'on ait vraiment beaucoup de public. Là, le public était au rendez-vous. Et on l'a bien vu et entendu, par exemple, dans l'interview de Vitolio, qui disait qu'il a eu un peu du mal à libérer son bras, parce que je crois qu'il fait une performance de 43 mètres, où d'habitude il est à 46. Je pense que voilà, c'est un peu... les Jeux, c'est juste magique, hein, c'est un autre monde. Et voilà, je pense qu'avoir eu tout ce public, tout ça, je pense qu'il a dû quand même avoir du stress, mais ils ont quand même répondu présent. Félicien, il fait une très belle quatrième place avec un record d'Europe. Et je pense que c'est que du positif pour ces deux athlètes. Et Pierrot, il a fait des bonnes courses. Il était à peu près dans 7 ans. Donc, on est peut-être aux 100 mètres où il aurait pu faire mieux par rapport au temps d'engagement qu'il avait et les temps qu'il a fait cette année. Parce que je pense que la troisième place était peut-être envisageable. Après, je ne connais pas la piste, donc c'est difficile parce que nous, on est tributaires de la piste. Donc si la piste, elle ne rend pas bien, les temps forcément sont moins bons. Donc on ne peut pas se baser sur ce critère-là. Mais il me semble que d'habitude, il était devant le Brésilien. Donc je ne sais pas, je débrieferai avec lui à son retour. Et pour lui, 100 mètres, tactiquement, il était dedans. Hein. Je veux dire, il était à la place où il devait être. Il était sur le premier couloir. Il avait l'aspiration d'un des meilleurs, donc d'un des favoris qui était potentiel pour faire premier ou deuxième. Et il décroche et il n'a pas réussi à prendre le wagon au deuxième tour. Donc voilà, après, c'est les jeux, voilà, c'est le haut niveau. Moi, je ne participe pas à ces jeux, c'est ma grosse déception. Je rate les qualifications à peu de choses près, mais voilà, c'était une année difficile. Où, bah, avec les événements, je suis resté 3 semaines off. Mais ça reste des bons jeux. Et moi, je suis juste un petit peu déçu sur cette équipe de France. C'est que dans tous les Jeux paralympiques, depuis qu'ils existent, on n'a eu qu'un représentant en fauteuil de course. On est 5-6 fauteuils en équipe de France à être dans le top 8 ou 10 mondial. Et on n'avait que Pierre qui a été sélectionné. Bon, après, il y a un nombre de places limitées, il y a plein de critères.
Oui, Olivier Dogneau nous l'avait expliqué en direct, qui, hein, que la sélection avait été extrêmement dure.
Ouais, qui rentre en jeu. Mais voilà, je pense que du coup, il a fait un stage tout seul. Et ce que nous, en fait, quand on est en équipe de France, on est toujours 3 ou 4. Mmh. Ça crée une émulation, à se dire que pendant les stages, on se tire la bourre, on s'entraîne, on se tire tous vers le haut. Et bah, là, il a dû s'entraîner tout seul. Et je pense que ça a dû être quand même assez difficile. Je n'ai pas eu de retour de sa part, mais entre s'entraîner tout seul et à 3-4 fauteuils de course, forcément, ce n'est pas la même chose.
Bon, on ne va pas bouder notre plaisir, encore une fois. C'est des places de finalistes,
c'est des très belles performances.
Très belles performances de nos Calédoniens. Si on revient sur le bilan des Français, c'est donc 75 médailles en tout, dont 19 en or. C'est quand même une belle moisson.
Ouais. Et notamment le cyclisme qui a brillé.
Le paracyclisme a fait
beaucoup de médailles. Parce qu'il me semble qu'ils font 10 médailles juste... Avec le cyclisme. Et non, ils ont mis les moyens, ils ont trouvé le truc, le cyclisme depuis Tokyo. Depuis Tokyo, je pense, en vue de Paris, ils ont dû mettre les moyens et réfléchir sur pas mal de choses parce que c'est la discipline qui a le plus évolué et explosé, contrairement à d'autres.
On va parler quand même aussi de cette cérémonie de clôture de ce matin, parce que ça fait aussi partie des Jeux Olympiques, une très belle cérémonie de clôture. Est-ce que vous l'avez suivie ?
J'ai pas pu la suivre. Bon, alors, j'ai regardé l'ouverture, mais j'ai pas pu suivre la fermeture.
Voilà, donc encore une fois, une très belle cérémonie de clôture basée avec beaucoup de musique électro. Et puis, un moment émouvant, le moment où la vasque s'éteint, ça y est, c'est fini, quoi. Ça devient concret. On avait pris l'habitude que cette vasque soit allumé depuis le mois de juillet. Éric Figuère, vous avez regardé ça un petit peu ce matin ?
Alors malheureusement non, parce que je travaillais tôt ce matin, j'ai pas pu voir les images, mais moi je regrette quand même, je profite pour le dire, que les Jeux paralympiques, alors c'est un débat comme le débat qui va nous animer un peu plus tard, c'est le débat qui fait souvent discussion, c'est de pouvoir faire les Jeux paralympiques en même temps que les Jeux olympiques.
Ouais, alors, mais logistiquement, c'est pas
alors
possible.
Alors voilà, mais on sait que c'est effectivement très compliqué, mais c'est vraiment dommage, effectivement, qu'on ne puisse pas, qu'ils puissent pas être organisés en même temps, avec une visibilité bien meilleure. Alors après, ça leur donne aussi une visibilité. Là, c'était en France, donc c'était formidable. On a surfé sur cet élan, effectivement, des Jeux olympiques, donc c'était très, très bien. Mais malgré tout, c'est dommage qu'on ne puisse pas les associer encore un petit peu plus. Voilà, mais c'est pas possible. Donc tant pis. Mais malheureusement, les Jeux, c'est formidable, mais ça ne dure pas très longtemps. Et puis, c'est déjà fini.
Alors,
c'est aussi ce qui va nous demander, qui va nous donner envie d'attendre les prochains. Donc ça, c'est formidable. Et puis, les athlètes se sont tellement préparés pour les réussir, ces Jeux, pour y participer, pour les réussir pour la plupart. Donc maintenant, il faut qu'ils se reposent un peu. Et puis, voilà. Mais il faut que ça s'arrête à un moment donné.
Et il faut que nous aussi, on se repose un petit peu.
C'est la pub alors.
On a beaucoup veillé. On se retrouve donc après cette page de pub pour le débat.
RRB, la pub.
Dans vos stations Shell et Pacifique, gagnez 4 Toyota Hilux, 730 cartes carburant à 15 000 francs et profitez tous les jours de nos offres fidélité et des bons plans en magasin. Rendez-vous vite dans vos stations Shell et Pacifique et n'oubliez pas votre carte fidélité.
Attention, plus que quelques jours avant le tirage du 13 septembre. Jeux sans obligation d'achat jusqu'au 21 mars 2025, règlement disponible dans vos stations Shell et Pacifique.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, on retrouve tout de suite la suite d'une semaine formidable avec Olivier Ledain et ses invités.
Alors on se retrouve donc pour le débat de ce soir. Donc une décision qui semble avoir été prise par la mairie de Paris pour laisser les anneaux olympiques sur la tour Eiffel. Messieurs, qu'en pensez-vous ?
Que la mairesse, elle a certes des souhaits, mais qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut non plus.
Alors pour l'instant, la mairie de Paris confirme que les anneaux olympiques resteront sur la tour Eiffel jusqu'en 2028 et que les agitos, donc le symbole des Paralympiques, seront quant à eux démontés de l'Arc de Triomphe mais resteront sur les Champs-Élysées. Voilà les infos.
Mais malheureusement, des fois dans la vie, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, alors on verra si effectivement ils emporteront la décision, puisque c'est quand même, ça appartient au CIO, les anneaux olympiques, et donc on ne peut pas les utiliser comme on veut. Et puis la Tour Eiffel est certes à Paris, mais c'est un monument historique, et donc c'est un monument français. Donc voilà, c'est un débat. Voilà, moi je pense effectivement qu'ils ont été, ça a été une très bonne idée de les installer à cet endroit-là, vraiment une très très bonne idée. Mais cette idée, ben voilà, les jeux sont terminés, donc maintenant il faut les enlever.
Comme la flamme.
Voilà, comme la flamme, exactement. Voilà. Comme les agitos, effectivement, qui vont rester à Paris, mais qui vont être déplacés, ben ces anneaux, il faut les déplacer, il faut trouver. Je suis certain qu'il y a un endroit à Paris qui saura les recevoir.
Nicolas, votre avis ?
Je suis totalement d'accord avec toi, du coup, parce que c'est un monument historique. Les Jeux, ça dure depuis presque 2 mois, en comptant les Paralympiques. Je pense que les anneaux, tout le monde a pu bien en profiter. Après, il faut rendre à Paris ce qu'il y a à Paris. Donc, sa Tour Eiffel, les touristes, ils viennent pour la Tour Eiffel et pas forcément pour voir les anneaux olympiques dessus. Ceux qui sont venus pour le voir, ils sont déjà repartis chez eux. Donc, je pense qu'à un moment, ouais, on aurait pu pousser peut-être une semaine ou deux.
Oui, bien
mais
sûr.
Voilà, à un moment, 2028, ça fait quand même loin.
Mais est-ce que ça a du sens de laisser les anneaux olympiques alors que les Jeux sont terminés ? C'est un peu aussi la question qu'on peut se poser, Pierre Forest.
Alors, je partage un peu l'avis de mes deux collègues, mais je suis tenté de dire, pourquoi pas, pour marquer, c'est pas tout, ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu les Jeux olympiques ?
100 ans.
100 ans, voilà. Donc c'était bien de garder ces anneaux, mais peut-être les mettre à un autre endroit, je ne sais pas où. Parce que c'est vrai que concrètement, déjà, je partage l'idée que la Tour Eiffel, c'est un monument historique. Hein. Je crois que la famille Eiffel...
Descendants de Gustave Eiffel sont opposés au maintien des anneaux olympiques.
Donc c'est quand même leur bien, c'est quand même... Mmh. Et puis je veux dire, les touristes, ils viennent du monde entier, les cartes postales, c'est la Tour Eiffel, elle est comme ça, elle est comme ça. Mmh. Et puis, d'un point de vue esthétique, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi... La journée, je trouve vilain le truc.
Ah bah les c'est anneaux. Sûr que le soir illuminé, c'est beaucoup
alors
plus.
Alors que le soir, oui, c'est illuminé, ça donne un cachet. Mais là, la journée, c'est... Donc oui, il faut le garder pour souvenir des JO à Paris. Ça fait 100 ans qu'il n'y a rien qui s'est passé. Mais peut-être les mettre ailleurs, sur un établissement, sur un fronton de mur ou un bâtiment.
C'est un débat plus général. Il faut savoir effectivement vivre avec son temps. Il faut savoir évoluer avec son époque. Mais il faut aussi avoir de la mémoire. Il faut aussi respecter tout ce que les anciens ont laissé. Il faut respecter... ces monuments qui ont la Tour Eiffel, c'est presque 150 ans, pas tout à fait, 1889. Donc voilà, non, faut respecter un petit peu ce qui a autant de valeur.
Alors j'ai presque lancé un débat à l'intérieur du débat. Est-ce qu'il n'y a pas une tentative de récupération politique de la part d'Anne Hidalgo ? Qui ose répondre ?
Moi, je peux répondre. Ça ne surprendrait pas les politiques, bien évidemment. Après... ça fait parler effectivement un petit peu d'elle, ça fait parler un petit peu, encore une fois, de la ville de Paris. Donc c'est une bonne guerre, voilà. C'est pas, je la critiquerai pas plus que ça par rapport à ça. Elle a essayé. J'espère qu'elle ne réussira pas. Après, la terre ne s'arrêtera pas de tourner et le sport et la visite des monuments français par les touristes, ça ne s'arrêtera pas parce que les anneaux resteront en place. Hein, on est bien d'accord. Mais bon, voilà. Non, c'est pas une bonne idée. Voilà. Mais ça fait un peu parler de voilà.
Alors, c'est surtout, voilà, dans la présentation de la candidature de Paris, il y avait quand même ce qu'ils ont appelé l'héritage de Paris 2024, de laisser un certain nombre de choses. Et je pense que l'héritage, il y en a déjà beaucoup. On parle de la vasque qui va rester, qui devrait rester normalement.
Alors, ça, c'est pas fait encore.
C'est pas encore fait non plus. Voilà. Mais voilà, c'est des symboles des Jeux Olympiques de Paris qui a beaucoup utilisé ces monuments. Il va en rester plein. Je pense qu'il y en a plein qui sont exploitables.
Ce qui est sûr, c'est que la scène propre, ça ne restera pas. Ça, on est d'accord là-dessus. Je ne vais pas faire la polémique, mais...
Donc, est-ce qu'il y a besoin, j'ai envie de dire, de ces anneaux de supplémentaires pour maintenir le fait que les Jeux Olympiques ont eu lieu à Paris ?
Ça n'apportera rien. Voilà.
Je pense que... L'héritage, on l'aura grâce aux infrastructures qui ont été rénovées, des choses qui ont rendu plus accessible pour les personnes en situation de handicap. Il y a plein de choses qui ont été faites quand même autour de ces Jeux, donc on aura l'héritage.
Puis ils ont aussi choisi de se servir de lieu emblématique de Paris, le Grand Palais, etc. Donc ça, c'était des idées mais exceptionnelles. Et ça a été une réussite mais fantastique, bien qu'on aurait pu peut-être en douter un petit peu, mais ça a été juste extraordinaire. Donc ces lieux-là, il faut les laisser. L'héritage, c'est les souvenirs. Et puis là, il n'y a pas vraiment de lieux qui ont été construits. Je parle d'infrastructures sportives spécifiquement pour ça. Et c'est une très bonne chose, puisque ça permet de faire des économies aussi. Donc ça, c'est une réalité importante. Donc voilà, l'héritage, il existera de toutes les manières toujours, on s'en souviendra de ces jeux.
Et est-ce que naturellement, on ne pourrait pas aller poser ces anneaux du côté de l'INSEP ?
Ça prendrait plus son sens.
C'est un très bon endroit.
Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas.
Bon, oui. Je vous laisse le suggérer au comité olympique.
Ce serait une bonne idée, puisque l'INSEP, il faudrait lui redonner aussi une image peut-être un peu plus moderne, parce que l'INSEP est quand même, commence à dater un petit peu.
Alors,
je sais que le travail qui est fait est plus que remarquable, mais c'est là aussi une institution. Et quand on voit ces murs de briques rouges encore aujourd'hui, c'était dans la mémoire de tous les sportifs français qui ont passer du temps dans cet endroit-là, mais les anneaux, ça pourrait être une bonne idée. Ça.
Allez, du coup, on va terminer ce débat avec une petite question pour chacun d'entre vous. Qu'est-ce qui restera pour vous de ces Jeux olympiques ou paralympiques, d'ailleurs ? Pierre Forest.
Bah, plein d'images.
Oui, beaucoup, oui.
C'est difficile d'en choisir une. Oui. Hein.
Plein d'images, et il y en a une que je garderai, même si ça ne concerne pas les Français, mais c'est, je ne sais jamais comment elle s'appelle, c'est la judokate japonaise, là. Ce cri, là, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, ce cri qui, au-delà du cri, elle s'est fait éliminer d'emblée, dès les premières secondes.
Abbé, si je ne dis pas de bêtises, elle s'appelle Abbé.
Archi favorite. Mais ce cri-là voulait tout dire. Quoi. Voulait dire que toute sa préparation de 4 ans
qui s'écroule.
Et je vois cet entraîneur-là qui est plutôt embêté. Il avait son sac en même temps, il fallait qu'il la tienne, etc. Enfin, cette image-là, elle est.
Une image forte.
C'est une image forte de quelqu'un qui était favorite de son épreuve au jeu, et puis il y a tout qui s'écroule en 10 secondes. Quoi.
Voilà. Je crois qu'on peut retenir aussi, tu as raison, mais ce qu'on peut retenir aussi, au-delà des cérémonies d'ouverture et de clôture qui ont été exceptionnelles, c'est de faire ces jeux dans la ville. D'avoir ces épreuves sur le pavé parisien, au sein même de la cité, ça, c'est la première fois, je crois. Et ça, c'était tout bonnement exceptionnel, puisque ça nous a offert des images que personne n'avait jamais vues et qu'on ne reverra, je pense, plus jamais. Alors, les Américains ont essayé de faire mieux, différemment, en tous les cas. Mais je pense que ces images-là, des compétitions dans Paris, ça, je pense que ça restera extrêmement fort et très longtemps.
Nicolas Brignone, votre souvenir particulier ?
Deux petits à souligner. C'est la première, c'est déjà le classement au niveau olympique de la France. C'est un classement, je pense, qui restera historique. Et le deuxième, parce qu'en fait, j'ai plein d'amis, ce qu'ils l'ont remarqué, c'est Céline Dion sur la Tour Eiffel, qui n'avait pas fait de concert depuis des années. Et je pense, dans le domaine plus commun, pas vraiment des sportifs comme nous acharnés et qui s'intéressent vraiment au sport, c'est ce qui, je pense, qui restera dans le cœur de pas mal de personnes. Ouais.
Bon, mais si on surveillera le devenir de ces anneaux olympiques et de ces agitos...
Suite au prochain épisode.
Voilà, pour voir où ils vont finalement se retrouver. On va passer et terminer cette émission avec vos coups de cœur. Pierre Forest, on va de nouveau commencer par vous. Quel est votre coup de cœur de la semaine ?
C'est toujours moi. alors, puisqu'on parle des Jeux olympiques qui sont terminés avec les Jeux paralympiques, j'ai un petit coup de cœur pour nos sportifs calédoniens. Maintenant, c'est terminé. Nos 5 qui ont participé aux Jeux olympiques et puis les 3 dernièrement. Donc, même si les résultats n'étaient pas au rendez-vous, parce qu'on espérait tous, évidemment, mais surtout eux, avec une seule médaille, je crois, c'est celle de bronze de Maxime Gousset en relais. Mais je pense qu'il y a un petit coup de cœur pour eux. Ils ont bien représenté, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Le niveau, certes, est maintenant très, très élevé. Je ne veux pas contredire ce qui est dit notre ami...
Nicolas.
Donc voilà, ça c'est le premier coup de cœur. Puis si tu le permets, j'ai un autre petit coup de cœur. Allez-y. C'est le public de la Rabine, du stade de la Rabine. On a parlé de rugby tout à l'heure, c'est purement rugby à Vannes, où à chaque pénalité ou transformation tentée par le stade toulousain, donc par les adversaires, il y a un silence de cathédrale. On n'est pas habitué à ce genre de truc, mais il faudra voir les prochains matchs, puisque...
Si ça dure.
C'est vraiment le respect du public, du moteur. C'est fantastique. Je trouvais ça... J'ai regardé le match en plus ce matin, donc voilà. Un petit coup de cœur là-dessus.
Éric Figuère ?
J'en ai quelques-uns, mais je vais donc faire très vite.
On va se limiter à deux pour aujourd'hui.
Oui, je vais me limiter forcément, mais j'espère ne pas prendre le coup de cœur de Nicolas, mais Pierre Ferbanque, pour moi, c'est plus qu'un coup de cœur. C'est au-delà d'être un monument du sport calédonien, c'est un monument du sport français. Moi, je suis très attaché à ces sportifs-là, à ces sportifs-là qui durent dans le temps.
Septième Olympiade.
Voilà, septième Olympiade pour lui. Et ça, moi, je trouve que ça, c'est vraiment la référence parmi la référence.
Et
voilà,
réussir à faire. Peut-être une huitième en prévision.
Voilà, mais au moins sept jeux, avec toujours cette passion, avec ses résultats, même si cette année, il ne fait pas de médaille, mais il fait à chaque fois, enfin, il fait sixième, cinquième, quatrième, donc c'est fabuleux. Évidemment qu'il aurait aimé plus, mais cet athlète, cet homme, je suis plus qu'admiratif, c'est absolument fabuleux. Et puis très rapidement, une golfeuse, voilà, j'en profite quand même pour parler un peu de golf, Ariane Klotz, qui fait sa première année, qui joue sa première année de golfeuse professionnelle en Europe, sur le circuit d'accession à la première division européenne, et qui fait un très très beau début de saison, et qui a toutes les cartes en main pour passer à l'échelon supérieur. C'est une jeune femme qui a fait de brillantes études et qui a continué à jouer tant aux États-Unis qu'en Europe et qui maintenant prend sa chance et qui la prend de très belle manière. Et j'espère vraiment, vraiment que ça va marcher. J'en suis même convaincu que ça va marcher et il faut parler de cette joueuse.
Eh bien, on va la suivre.
Je m'arrête donc.
On va la suivre avec attention dans les mois à venir. Nicolas,
moi, forcément, je suis mes deux collègues. Un coup de cœur pour nos athlètes olympiques et paralympiques calédoniens, ça, c'est sûr. Et mon deuxième petit coup de cœur, ça serait pour un athlète français, Mathieu Bosseredon, en handbike, qui avait raté de peu sa sélection à Tokyo en 2021, qui avait été forcément très déçu. Et il n'a pas lâché, il a pris cette déception comme force. Et là, il est revenu, il s'est sélectionné à Paris, et c'est l'athlète le plus titré de ces Jeux paralympiques, avec 3 médailles d'or, il me semble. Donc voilà, un gros coup de cœur à lui, parce que j'ai envie de me reconnaître en lui, voilà, parce que moi, j'ai raté de peu ma sélection, et je vais tout donner pour être encore plus fort et revenir encore plus fort pour Los Angeles.
C'est encore plus beau que tu as raison, mais 4 ans d'écart entre deux Jeux, c'est vraiment très difficile de pouvoir se projeter 4 ans après. La route est très longue, c'est pas un championnat du monde qui a lieu l'année d'après.
C'est sûr, mais bon, il a réussi à se mobiliser. Parce que rater une sélection, honnêtement, c'est très difficile.
Tu sais
donc
ce que
coup
tu
de
vas
cœur
faire.
À lui. Tout à fait.
Bon, eh bien, on espère qu'en 2028, je ne sais pas si on sera encore là, mais que vous serez à Los Angeles.
Merci.
On va terminer sur ça ce soir. Merci, messieurs, à tous les trois d'avoir été présents ce soir. Et puis, à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine formidable.
Bonne soirée à tous.
Bonne soirée à tous.